Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'heure du grand ménage après l'attaque à la préfecture de police de Paris.
Le tueur avait montré des signes de radicalisation dès 2015, mais rien n'apparaissait dans son dossier. Christophe Castaner exclut de démissionner, mais il promet des sanctions. La question de l'immigration s'invite à l'Assemblée. Débat cet après-midi dans l'hémicycle. Dans ce journal, reportage en immersion sur l'Ocean Viking, ce navire humanitaire qui secourt les migrants en Méditerranée. Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les communes contre-attaquent. Deux plaintes contre X ont été déposées. La catastrophe leur coûte très cher. À suivre également l'ouverture du procès de l'affaire Karachi dans son volet financier, avec en toile de fond le financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur. Un synode sur l'Amazonie au Vatican, où l'on va examiner la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. Est-ce la fin du célibat des prêtres? Ce sera la question du 8h. Et puis 4 années au purgatoire, mais ça y est, Michel Platini est de retour. Sa suspension prend fin ce soir à minuit.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Et quelqu'un va devoir payer. 4 jours après l'attaque qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris, la femme du tueur a été remise en liberté à l'issue de sa garde à vue. Aucune poursuite pour l'instant, malgré une trentaine de SMS à caractère religieux échangés avec son mari le matin même du drame. On sait désormais que Michael Harpon était radicalisé depuis longtemps. Dès 2015, il avait justifié devant des collègues l'attentat de Charlie Hebdo. Son comportement à l'égard des femmes avait changé. Pourtant, rien n'apparaissait dans son dossier, ce qui a fait dire à Christophe Castaner dans un premier temps que c'était un homme sans histoire. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur reconnaît un dysfonctionnement.
Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, une femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Et s'il y a eu des fautes, nous les corrigerons. Et s'il y a eu des erreurs d'appréciation, il faudra les sanctionner. C'est indispensable.
Christophe Castaner qui exclut de démissionner, mais évoque des sanctions. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour.
C'est clair, hein, il va y avoir un grand ménage.
Oui, c'est l'inspection des services de renseignement, l'ISR, qui est chargée directement par Matignon de ce travail, avec une première enquête qui démarre ce matin à la direction du renseignement de la préfecture de police, là où travaillait Michael Harpon. Les enquêteurs de l'ISR vont dresser une sorte d'audit, établir comment l'informaticien a échappé à tout contrôle? Pourquoi, surtout, les informations intrigantes à son sujet, le fait qu'il se réjouisse de l'attentat contre Charlie Hebdo, qu'il ne serre plus la main de ses collègues femmes, pourquoi ces possibles signes de radicalisation sont restés lettres mortes? Des faiblesses sont déjà pointées du doigt. Le fait, par exemple, que les officiers référents radicalisation ne sont pas assez formés et surtout accaparés par d'autres tâches, ou encore que ces signalements délicats se font trop souvent de manière verbale ou informelle. L'inspection a prévu de rendre ce premier rapport à la fin du mois. À partir de là, le ministère pourra décider d'éventuelles sanctions. L'inspection qui va également élargir son enquête aux autres services de renseignement. Le cas de tous les fonctionnaires ayant fait l'objet de doutes sur leur possible radicalisation va être passé au peigne fin.
Merci Jean-Alphonse Richard du service police-justice d'RTL.
RTL matin 8h04.
Un sujet qui fâche cet après-midi à l'Assemblée, on va débattre de l'immigration.
Emmanuel Macron l'avait promis à l'issue du grand débat. Le chef de l'État ne veut pas laisser le sujet à d'autres. Il veut même en faire une arme de reconquête pour 2022, quitte à diviser sa majorité, notamment sur le sujet de l'immigration économique et des quotas. Pour rejoindre l'Europe, certains migrants sont prêts à risquer leur vie. Des centaines de personnes ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. Leur seul espoir, ce sont les navires humanitaires comme l'Ocean Viking, qui a succédé à l'Aquarius. Il vient de reprendre la mer pour une mission de 3 semaines au large de la Libye. Étienne Renard a pu assister à un entraînement au sauvetage. C'est RTL en immersion.
La grue blanche descend lentement vers la mer, Easy 1, l'un des 3 Zodiacs rapides de l'Ocean Viking. Marin de profession, Théo connaît ses manœuvres par cœur, mais il suit ce premier exercice avec beaucoup de concentration.
Le problème, c'est que certaines personnes ne se connaissent pas, il y a quand même 3 nouveaux. Il faut qu'on soit prêt à 100%.
Speed !
Le Zodiac file au large en direction d'une embarcation à la dérive. Autour, des dizaines de gilets de sauvetage sont charriés par la houle, autant de personnes à sauver. L'équipe de l'Ocean Viking vient du monde entier. Tanguy dirige les opérations en anglais. Incessants allers-retours vers l'Ocean Viking, après 2 heures d'exercice, tous les gilets sont ramenés à bord.
Yes, easy to, good copy.
Ça s'est pas trop mal passé, je pense. Après, comme d'hab, on fera un débrief. Et on réfléchira surtout aux points négatifs, histoire de s'améliorer.
Sur le bateau, l'équipe de MSF coordonne les premiers secours. Vêtements, repas, les containers ont été remplis pour faire face à l'urgence. Stéphanie dirige l'équipe médicale.
Nous avons des rations spécifiques qui sont adaptées aux besoins d'un corps humain par jour. Il y a aussi un peu de chocolat, des biscuits, du thé. Pour quelques jours, c'est bien. Les gens aime ça, mais c'est une nourriture d'urgence.
L'Ocean Viking devrait approcher des côtes libyennes dans la soirée. Cette fois, il s'agira de sauver des vraies vies.
RTL en immersion signée, Étienne Renard pour RTL.
RTL matin, 8h05.
Il aura fallu 17 ans. Le procès de l'affaire Karachi s'ouvre aujourd'hui à Paris.
Le procès du volet financier, un système de rétro-commission occulte sur des ventes d'armes au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. En filigrane, le financement de la campagne d'Edouard Balladur en 95. Ce volet de l'affaire a été mis au jour après l'attentat de mai 2002 à Karachi. 15 personnes étaient mortes dans l'explosion d'un bus, dont 11 employés français des constructions navales de Cherbourg. Parmi eux, le père de Sandrine Leclerc. Aujourd'hui, elle attend des réponses.
Il faut se souvenir que c'est à l'initiative des familles que tout ceci a été rendu possible, tandis que l'État n'a pas semblé réellement vouloir se préoccuper des raisons de cet attentat. Nous, on a besoin de savoir pourquoi nos proches sont morts. C'est très important pour nous. Maintenant, on laisse la justice se faire. Nous, on a des convictions. C'est à la justice maintenant de travailler. On verra ce qui s'y passe. C'est une plaie qui ne se ferme pas parce qu'on n'a pas eu de réponse. Nous, ça fait 17 ans qu'on réclame la même chose, c'est simplement que vérité soit dite et que justice soit rendue. Mais 17 ans, c'est très long. Maintenant, on aimerait en voir le bout.
À l'étranger, Boris Johnson a appelé Emmanuel Macron hier soir pour le mettre en garde. Il n'y aura pas de report du Brexit au-delà du 31 octobre. Le Premier ministre britannique souligne que c'est actuellement donc la dernière chance d'obtenir un accord.
Dans un instant sur RTL, les suites de l'incendie de Lubrizol à Rouen. Des communes portent plainte.
RTL 8h07.
Ford. RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal Isabelle Choquet, Yves Calvi.
Et plus de 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les communes contre-attaquent.
On est toujours dans le flou sur la quantité de produits chimiques partis en fumée, puisque l'usine voisine Normandie Logistique stockait également des substances dangereuses et elle a brûlé en partie. On est toujours dans le flou aussi sur l'analyse des suies qui se sont déposées partout alentour. Les résultats se font attendre. Ce qui n'est pas flou du tout en revanche, c'est que cet accident a un coût. Deux communes proches de Rouen ont décidé de porter plainte contre X, Julien Caillard.
Oui, parce que le préjudice est énorme financièrement. D'abord à Mont-Saint-Aignan, il a fallu intervenir en urgence dans les écoles, à la piscine ou sur les aires de jeu. La maire et l'aire de la ville, Catherine Flavigny.
Il y a des choses que j'ai décidé de faire, nettoyer toutes les cours d'école et puis changer ce week-end-ci l'eau du bassin de 50 mètres et du petit bassin ludique. Et puis je suis obligée de faire changer le sable partout où jouent les enfants. Tout ça a un coût. Et aujourd'hui, on fait quoi ?
Objectif aussi défendre les habitants à Mont-Saint-Aignan. Beaucoup comme Franck ont été impactés.
De la suie sur le toit, sur notre terrasse. Et plus bas, vous avez notamment des amis qui ont fait constater par huissier de l'amiante et des traces de fibrociment. On a fait une déclaration de sinistre auprès de notre assurance. Est-ce que ça va être pris en charge ? Mais sinon, il faut qu'on nettoie toute la maison.
Ici, ce dépôt de plainte rassure aussi ses habitants inquiets pour leur santé.
J'ai une toux qui n'arrive pas à partir. On a été confronté quand même à quelque chose de compliqué et qui va rester compliqué sûrement avec des conséquences sur l'avenir, oui. Donc un dépôt de plainte est important.
Reste que la procédure devrait durer des mois, voire des années.
Reportage RTL de Julien Caillard en Normandie. En Seine-Saint-Denis, trois jeunes âgés de 14 à 15 ans ont été mis en examen et incarcérés hier pour assassinat en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir poignardé à mort un lycéen des Lilas vendredi pendant un cours de sport.
RTL matin 8h11.
L'Amazonie, le sujet s'était invité en urgence au dernier G7. Aujourd'hui, c'est le Vatican qui s'en empare.
Oui, le pape François préside à Rome un synode extraordinaire consacré à cette région menacée. Alors bien sûr, il sera question d'environnement, mais aussi de problèmes socio-économiques et de la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés dans certaines régions isolées d'Amazonie.
Alors, l'Église va-t-elle ou peut-elle mettre fin au célibat des prêtres ? Eh bien, c'est la question du week-end.
Avec vous, Marie Guerrier, bonjour.
Bonjour.
Le pape est-il vraiment favorable à ordonner des hommes mariés ?
Oui, parce que nécessité fait loi. Faute de prêtres en nombre suffisant dans les zones les plus reculées de l'Amazonie, les populations sont privées des sacrements qui constituent la vie d'un catholique pratiquant. La communion, la confession, l'onction des malades. Une ou deux messes par an, c'est bien tout, alors que l'Église recommande de participer chaque semaine à la messe dominicale. Alors c'est pour ça que le document de travail du synode sur lequel vont plancher 184 évêques, eh bien, pose la question de l'ordination de personnes aînées, personas ancianas, d'âge mûr donc, à la situation familiale stable, déjà très engagée dans la vie pastorale autochtone. Mais le document dit aussi, tout en affirmant que le célibat est un don pour l'Église, et ça le pape l'a plusieurs fois répété ces derniers mois.
On est donc encore loin de la fin du célibat des prêtres.
Et oui, parce qu'il s'agit là seulement de rendre optionnel le célibat dans des circonstances bien précises, sur des territoires bien précis, pour quelques sacrements seulement. La règle, par ailleurs, reste d'ordonner des prêtres célibataires sans possibilité de se marier ensuite. Une prêtrise à deux vitesses, en quelque sorte, deux manières d'être prêtre. Absurdité et hérésie, dénoncent les évêques les plus conservateurs. Ça promet de rudes débats dans les jours qui viennent à Rome. Le pape le sait bien. Hier, lors de la messe de lancement du synode, il a mis en garde contre la tentation de l'immobilisme. Le « on a toujours fait ça comme ça » parce que le risque localement, c'est la disparition de l'Église. Pragmatique, François appelle les évêques à l'audace pour ne pas laisser aller les choses sans agir.
La question du 8h avec Marie Guerrier. Nous sommes le lundi 7 octobre et c'est la quille pour Michel Platini.
Oui, l'ancien président de l'UEFA a été suspendu depuis 4 ans, banni de toute activité dans le monde du football. En cause, un paiement sans contrat écrit de 2 millions de francs suisses par le président de la FIFA, Sepp Blatter. La sanction prend fin ce soir à minuit, et l'ex numéro 10 a des fourmis dans les jambes, Nicolas Georgerot.
C'est d'abord la promotion d'un livre qui va occuper l'ancien Ballon d'Or. L'ouvrage sortira début novembre. Il raconte le Platini, patron de l'UEFA. Quant au terrain, les fonctions, il ne dit pas non, comme il l'expliquait il y a peu à nos confrères de la radio-télévision suisse.
Je sais pas où, je sais pas comment, je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis.
Succéder à Noël Le Graët est une option. Les élections à la Fédération française auront lieu dans 14 mois. La FIFA, c'est plus lointain, dans 4 ans. Aura-t-il la force, l'envie d'ailleurs, de replonger dans le marigot de la Fédération internationale? Le foot lui manque. Est-ce qu'il manque au foot? C'est toute la question. Les prochaines semaines, les prochains mois le diront.
Si j'ai envie de revenir dans le football, ça ne sera pas pour la revanche. Ça serait mesquin, je trouve, pour venir pour de la revanche. Ce n'est pas de mon niveau. Si je reviens, c'est parce que des gens espèrent en moi et comptent sur moi pour que je fasse quelque chose de bien pour le foot. Sinon, j'irai jouer à pétanque.
La presse, les médias ne l'ont pas oublié, lui faisant déjà des appels du pied pour être consultant lors de l'Euro ou de la Coupe du Monde à venir.
Nicolas Georgerot. Le foot, c'est aussi le très bon démarrage de Claude Puel à Saint-Etienne, club cher à Platini. Le nouvel entraîneur a entamé son mandat par une victoire 1-0 sur Lyon, l'éternel rival. But de Berić dans les toutes dernières minutes en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Les Verts remontent à la 13e place. Lyon est 14e et franchement en plein doute. Et puis, je déclare la saison des Nobel ouverte. Yves, comme chaque année, ça commence aujourd'hui par la médecine. La littérature, ce sera jeudi. Et vendredi, le prix Nobel de la paix. Il y a plus de 300 candidats. Bonjour le casse-tête. On parle beaucoup de Greta Thunberg, mais c'est pas gagné pour Greta Thunberg.
C'est une grande responsabilité de découvrir.